Panorama est chaque année le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy École Internationale d'Art, basée à Tourcoing. Cette 18e exposition, visible jusqu'au 31 décembre, rassemble des œuvres essentiellement photographiques, audiovisuelles ou des installations faisant appel à des technologies sophistiquées dont le Fresnoy est équipé. Petit tour de cette exposition du 21e siècle et rencontre avec quelques-uns des 50 artistes présentés.
Alors je suis Olivier Guin, je suis un artiste qui travaille avec le son et la lumière. Et ici j'ai voulu travailler sur un projet qui puisse être éclaté dans l'espace et donc présent un peu partout, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, et pas forcément du coup avoir un espace bien défini, comme il peut y avoir ici au sein de Panorama, mais plutôt ouais, quelque chose qui est dispersé, comme si j'avais éclaté un projet, je l'avais brisé dans l'espace. Voilà. Donc là on va se diriger peut-être vers l'une des pièces qui est à l'intérieur. Il s'agit d'une affiche de cinéma, donc je suis intervenu sur le rétroéclairage, dans l'idée en fait de fabriquer une sorte de fiction dans laquelle on aurait une entité non définie qui essaierait de communiquer avec nous par le biais de l'éclairage, en profitant des buzz et des anomalies électriques qu'on entend, parce qu'il y a des buzz. Les murmures qu'on entend sont en opposition avec des buzz et des anomalies un peu électriques, quoi. Donc voilà, il y a ces buzz qu'on entend qui sont issus d'un enregistrement de vrais lampadaires. En promenant la nuit, je suis allé enregistrer un lampadaire qui buzzait, que j'avais repéré. Et je me suis dit que j'allais le mélanger avec ma voix qu'on entend là. C'est une voix volontairement qu'on ne comprend pas son contenu, parce que je ne voulais pas utiliser la voix comme support d'information, mais plutôt comme matière familière, quelque chose d'humain, pour amener une sorte de sentiment d'étrangeté à l'objet. Donc on est un peu dans le genre cinéma du fantôme et de quelque chose de très codifié avec cette voix un peu sourde. Voilà, je rappelle un peu ça. Le fait aussi que les voix soient à l'envers, c'est un peu comme des glossolalies, des prières à l'envers qui sont là comme pour défaire quelque chose, des prières qui défont puisqu'à l'envers. Comme si on dénouait quelque chose. Et il y a cet aspect donc du coup paranormal, mais aussi peut-être quelque chose autour du paracinéma, qui est une sorte d'expérience de cinéma diminué, où on a pu diminuer à la lumière et au temps. Et donc ici, la lumière, bon, c'est l'éclairage déjà présent qu'il y avait dans cette affiche de cinéma, et le temps viendrait être introduit par la voix qu'on entend. C'est elle qui fait vaciller en fait la lumière. C'est ça qu'il faut que je précise, vu qu'on n'a pas référent à l'image quoi, mais on entend que ma voix, mais voilà, il faut dire que ce qu'on voit, c'est une affiche dont le rétroéclairage vacille en fonction d'une voix, voilà. Donc c'est une sorte de parasite, j'ai intégré un parasite à un objet visuel qui était déjà présent au Fresnoy. Tout ça un peu dans l'idée finalement de d'amener des lieux possibles à des fantômes, sachant que les fantômes disparaissent aujourd'hui ou ont difficulté à exister au travers de nos technologies, du fait qu'on ait réussi à maîtriser le bruit, le rapport bruit-signal, ce genre de choses. Et donc ce qui m'intéressait après, d'un point de vue de la médiation et de comment tout ça s'agence dans l'espace, c'était aussi de finalement avoir un projet qui soit dans les abords d'une exposition. C'est pas forcément des endroits qui sont valorisés habituellement, rarement dans Panorama, et du coup finalement qu'un projet puisse accompagner même le spectateur avant qu'il rentre dans l'exposition, parce que là il y a certes cette affiche de cinéma, mais je suis aussi présent à l'extérieur de l'enceinte du Fresnoy sur une sorte de d'arbre avec plusieurs panneaux qui montrent les départements du Fresnoy et sur les lettres qui sont sur la façade du bâtiment. Voilà, donc à chaque fois j'ai détourné des luminaires qui servent des renseignements. Souvent c'est des lettres ou des panneaux d'indication. Et là, donc, il y a une affiche de cinéma ici, en l'occurrence.
Oui, donc, Gérard Colin-Thiébault, et je suis un artiste qui a été invité par le Fresnoy pour emmener des étudiants en seconde année, etc. Donc nous avons des groupes, on est 3 ou 4 artistes invités par année. Après ça change, chaque fois il y en a d'autres. Nous avons un peu 8 étudiants chaque fois. Voilà. Et là, l'exposition montre on est tous au même niveau, artistes et étudiants. Enfin, ils sont artistes aussi maintenant, ils sont artistes. Et voilà, on montre tout le monde en même temps.
Et vous, votre travail ici ?
Ben là, j'ai fait une vidéo 3D qui à partir d'une danse macabre qui date du 13e siècle, qui est à Berne, et j'ai voulu faire revivre tout ça. Voilà. Voilà.
Donc vous pensez, dans les années qui viennent, revenir au Frénois, parce que chaque année, il y a des promotions, on va dire ?
Ben, chaque année, non. En fait, on est invité pour un an, en principe, donc ça tourne. Il y a beaucoup de compositeurs, de cinéastes qui sont passés, d'artistes plasticiens qui sont passés. Donc, voilà. Donc, tous les ans, il y en a d'autres. Je ne connais pas ceux qui arrivent cette année, je ne les connais pas.
Un petit commentaire donc sur votre expérience ?
C'est très, très bien. Très bien parce que on replonge avec une jeunesse, des gens plus jeunes. Donc on se nourrit, enfin c'est interactif tout ça. Et voilà, c'est une très bonne expérience et c'est très bien ça. Ouais.
Artistes, professeurs associés et élèves du Frénois sont donc à pied d'égalité pour présenter leurs œuvres pour cette exposition Panorama au Frénois à Tourcoing. Nous continuons donc ce parcours au fil de nos découvertes.
Alors, je m'appelle Gwendal Sartre, je viens de terminer le Frénois, deuxième année, et j'ai fait un travail d'installation photographique et aussi un film qui s'appelle « J'ai gravé dans ses cheveux » et « Conjurer l'angoisse par l'énumération ». Donc, il s'agit d'un travail autour de l'intuition qui englobe beaucoup de choses. Mais moi, je pense beaucoup à l'intuition qu'on pourrait lier dans la science, dans l'art et dans la religion, et de comment des idées qui sont, on va dire, très contraires peuvent se balancer de l'une à l'autre, être en transfert de l'une à l'autre. Donc, dans ce travail, il y a toute une idée de relier des techniques et aussi des formes qui sont, on va dire, de l'ordre de l'archaïque ou du moderne. Donc là, dans ces gravures, comme j'ai gravé grâce à des appareils technologiques comme la nanotechnologie, j'ai voulu revenir à une forme d'archaïsme par des moyens, on va dire, modernes. Et dans le film aussi, il y a toute une idée d'un langage où je travaille avec un mathématicien et c'est de travailler autour de créer une littérature avec des mathématiques et de relier aussi parfois des formes de l'ordre de l'émotion, c'est-à-dire du fond pour moi, et l'idée des mathématiques, de la littérature, de la forme, et qu'elle re-questionne un peu l'ensemble. Pour moi, c'est un travail assez difficile à en parler. Je pense que c'est un travail qui doit se voir, qui doit avoir un regard, parce qu'elle joue la position d'un mystère. Et ce mystère, je ne peux pas vraiment, bien sûr, en parler. Quoi. Et c'est un mystère en même temps pour moi, et en même temps aussi que je veux donner aussi pour le spectateur qui regarde autant le film que les photos.
Donc, cette technique de graver sur un cheveu ou des cheveux, c'est compliqué à réaliser ?
Alors, avec l'école, j'ai pu travailler avec les labos qui pouvaient le faire. Après, en soi, c'est pas compliqué. En soi, c'est vraiment pas complexe. Pour des laboratoires qui travaillent en nanogravure, c'est vraiment très simple de faire ça. Et surtout, le cheveu, c'est quelque chose de très très gros à l'échelle nanométrique. Donc pour eux, c'était juste une question de temps et d'argent. Et il y avait vraiment aucun. Ça faisait très longtemps qu'on avait déjà fait ça, qu'on peut le faire. Et eux, ils explorent déjà des choses. Enfin, ils font vraiment plus vraiment de la nanogravure. La nanogravure, maintenant, elle est utilisée surtout à une échelle industrielle pour des composants électroniques ou des choses comme ça. Mais je crois que ce qui donne la chose extraordinaire, c'est l'idée qu'un cheveu, c'est déjà petit en soi. On sait, pour nous, à notre échelle, le cheveu est fin. Et se dire qu'on peut graver dessus et vraiment imaginer un monde, c'est ça que je pense que c'est la phrase elle-même qui déclenche un peu qui donne cet émerveillement. Parce que le cheveu, je pense, a quelque chose de proche, qui nous est très très proche, qui est le petit, mais et c'est une partie du corps aussi, c'est une identité, c'est quelque chose de mort en soi aussi, quand le cheveu tombe. Donc c'est pouvoir comme ouais, je pense que là je vais faire un peu sur la question par rapport à la nanogravure, mais non, la nanogravure c'est pas aujourd'hui on l'utilise sur plein de domaines aussi, on peut faire des sculptures en gravure. Moi j'avais la possibilité de le faire, mais moi je voulais, comme je travaille les dessins et la peinture, je voulais vraiment m'inscrire plutôt dans la gravure, et l'idée de graver pour moi avait une, dans le mot et dans le geste, avec quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus qui l'idée de l'écriture, vraiment d'inscrire une écriture sur un espace comme le cheveu, ça, c'était vraiment une idée poétique qui me plaisait beaucoup, quoi.
Quand on regarde ces œuvres, à première vue, elles peuvent sembler un peu abstraites, puis on se pose quand même la question d'un retour visuel à la réalité quand on s'approche ou quand on pense un peu, quand on y réfléchit. C'est un petit peu quelque chose d'étrange en fait, ce monde.
Mais je pense qu'il y a dans ce monde-là, il y a quelque chose de qui se mélange. Enfin, comme c'est minuscule, tout se mélange, le végétal, le corps, le paysage, la montagne. On a l'impression d'un foutrac un peu. Tout se mélange. On peut voir plein de choses. Et c'est un... Et c'est ça en soi qui m'étonne, c'est que c'est vraiment des paysages qui, en fait, en fin de compte, qui est réellement abstrait, parce qu'en vrai, ils sont invisibles, on ne les connaît pas, c'est comme des planètes, quoi, inconnues. C'était vraiment intéressant, même pour moi, de vivre une forme d'exploration aussi, d'une planète, d'une certaine façon, d'un lieu, d'un endroit rêvé où... Et c'est d'une grande richesse. Enfin, la photographie, moi j'ai exploré beaucoup avec des microscopes des cheveux et même d'autres choses. Et c'est d'une richesse formelle énorme, tellement riche, tellement énorme. Enfin, ça se perd, on se perd réellement dans ces images. Et c'était vraiment une partie assez difficile de devoir ne pas se perdre, de devoir contrôler, fabriquer. Il y avait beaucoup de possibilités, énormément de possibilités, et ces dessins m'ont aussi d'une certaine façon m'aidé à faire le choix sur quel endroit du cheveu, parce que c'est immense, je voudrais le mettre là, parce que là pour moi, d'un point de vue sensible, ça me paraît évident. Voilà.
Quand on regarde cette série de photos, alors on est bien sûr dans un espace blanc au niveau des murs, et les photos sont en noir et blanc, donc le noir sort très fort en contraste, on va dire, et on a l'impression d'une grande homogénéité. Or, ces gravures, vous les avez réalisées à des moments différents, je suppose, mais l'esprit reste un peu semblable.
Mais alors, je pense que c'est dû à la texture de la photo, MEB, on va dire microscope électronique à balayage, qui donne cette impression-là. Moi, je voulais vraiment un contraste, je voulais que le noir soit très profond, qu'on soit vraiment pas dans une idée de... on soit dans une idée d'image, de photographie, de peinture. C'est pour ça que je voulais vraiment travailler sur cette forme-là, voilà, une sorte de radicalité un peu dans la façon d'exposer, et en même temps classique, qui s'inspire vraiment aussi de comment on peut exposer des peintures. Et il y a l'idée du noir et blanc, mais moi j'aime beaucoup les dégradés, tout le travail sur le trait, du dégradé, quand le noir s'estompe, quand le noir disparaît, quand le blanc réapparaît sur le noir, et toutes ces subtilités-là, je voulais qu'on la voit, et c'est pour ça que je voulais surtout pas de couleur, et qu'il y avait vraiment un travail autour du noir et blanc, autour de la subtilité du dessin, de ces images qui proviennent de rêves, qui mélangent deux techniques, qui est à la fois une technique qui est classique, parce que les images sont tirées en barité noir et blanc, qui fait que ça donne ce noir profond, et il y a tout un travail numérique, parce que c'est des images numériques, c'est des informations, parce que ce qu'on voit là ne sont pas des photographies en soi, c'est des images générées par un ordinateur. Donc c'est pas des images qui, on pourrait dire, existent. C'est vraiment des images inventées, vraiment artificielles. Et c'est le geste de le transférer avec une technique ancienne, qui est celui du barreté, qui aurait fait que il y a eu tout un travail de mutation, de transformation, et puis de rapport un peu entre ces deux techniques. Et moi, voilà, je ne voulais pas aller mettre de la couleur parce que la couleur, ça n'existe pas à cette échelle-là. Parce que Ray, il est trop petit, donc c'est sombre. La lumière ne passe pas. Et moi, je voulais pas. Parce que souvent, quand on voit dans les images nanotechnologie, dès qu'on voit une couleur, c'est un mensonge. Alors, c'est des choses qui sont ajoutées. Il n'y a pas de couleur. L'échelle, c'est tellement petit qu'on ne peut pas observer la couleur. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des particules comme des électrons parce qu'ils sont plus petits que les photons de la lumière, enfin plus ou moins, et c'est comme ça, enfin c'est comme des images de sonar, on va dire, dans un lieu très sombre et qui reproduisent une réalité, mais pas la réalité, quoi. Enfin, voilà. Merci.
Du coup, je m'appelle Regina Demina, j'ai fait la pièce qu'on entend qui s'appelle Alma. Donc, ce que vous entendez, c'est la partie fiction sonore en fait, qui est spatialisée autour de la pièce, qui est une voiture sculpture tunée et crachée. Donc, c'est une pièce que j'ai écrite et que j'ai enregistrée, que j'ai montée, c'est ma voix. La spatialisation a été faite par un monsieur qui s'appelle Manuel Paoletti, qui travaille à l'IRCAM. Ça se passe dans l'univers du tuning automobile et des free parties. Et donc c'est le personnage qu'on entend qui s'appelle Alma qui va retrouver des amis sur un parking où il y a une fête, qui est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Cousin. Et ça glisse petit à petit dans une réalité fantastique. Et donc c'est contemporain, mais c'est une œuvre que moi je rattache au romantisme morbide en fait. Et à la techno aussi, et donc c'est un mélange de plein d'univers. Ça se passe la nuit, parce que moi, mon travail, ça prend encore essentiellement la nuit. Je fais des films aussi. Initialement, je suis comédienne et danseuse, mais je fais aussi de la musique et des installations immersives, comme celle qu'on voit, en fait, qui est une version réduite de ce qui aurait dû se passer en fait en scène. Et en fait, au final, c'est devenu une performance sans acteur Voilà, c'est bien aussi comme ça. Et ça sera présenté tous les jours au Frénois à 18h30 pendant le temps d'ouverture de Panorama. Et la journée, c'est visible aussi, mais en mode veille, donc on n'a pas la fiction sonore, on a juste la voiture sculpture.
Donc derrière cette musique qu'on entend, elle est carrément signée d'une époque, hein. Vous avez bien connu cette époque-là, vous êtes jeune pourtant.
Moi, j'ai commencé à sortir assez tôt. Quand j'avais 14-15 ans, et donc j'ai connu la fin, vraiment fin des free parties, qui était plus en 2000 qu'en 90. Mais après, c'est de la musique que j'écoutais très jeune. Et une des personnes dont j'ai les droits pour la musique, qui est pas la seule musique qui n'est pas de la musique originale, c'est de la musique de Docteur Macabre, de son vrai nom est Guillaume Leroux, qui était un monsieur qui fait de la techno hardcore et du gabber, et qui a eu beaucoup de ses morceaux qui ont été pris sur des compilations mythiques qui s'appellent Thunderdome et qui étaient sur des gros labels de musique électronique comme Epileptique dans les années 90 justement. Donc ça, c'est les vrais morceaux originaux de l'époque, donc ça cadre bien avec l'époque dépeinte en fait par ma pièce. Et après, moi, ça, c'est la musique que j'écoute beaucoup. Enfin, j'écoute pas du tout que ça, mais ça fait partie de mes références musicales.
Donc là, on est dans un espace qui est au Frénois, mais on a bien compris que votre projet, il est beaucoup plus large, beaucoup plus global que ça.
Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est la version réduite de ce qui aurait dû se passer sur scène dans un théâtre, en fait. C'était compliqué de le faire au Frénois, du coup, c'est devenu une performance sans acteur qui roule seule parce que l'écriture est automatisée, l'écriture lumineuse, la voix.
Ça pourrait se faire dans une salle de spectacle ?
Oui, ça pourrait complètement se faire dans une salle de spectacle si c'était pris.
Il y a un projet ?
C'est en cours, je cherche. Moi, si une salle de la région, ou d'ailleurs, veut prendre le projet, c'est complètement prêt à être développé. En fait, c'était initialement écrit comme ça. Et puis je l'ai adapté après au Frénois parce que ça devait être pouvoir. Il fallait qu'on puisse le voir pendant 3 mois en exposition. Ça aurait été compliqué de le faire ici 3 mois comme un show, quoi, en termes de moyens techniques, humains, etc. Mais moi, je rêverais de la monter effectivement en scène, cette pièce.
Bon, avis aux opérateurs.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voyez, cher amour, me voilà dans la peur. Voyez, je vous donne mon cœur, je le pose dans votre main, mon corps, ma vie, mon âme, enfin, mes entrailles et ma ferveur.
Dans le chagrin,
voyez, je vous donne mon cœur,
dans la peur, dans le chagrin,
je le pose dans votre main,
dans la peur,
mon corps, ma vie.
Donc je suis Raphaël Bezin et cette année j'ai produit une installation de réalité virtuelle. Donc ce qui m'intéressait c'était d'inscrire mon film davantage dans un espace que dans une durée. Au lieu de dire que mon film fait 15 minutes, je voulais pouvoir dire qu'il faisait 20 mètres carrés. Donc 20 mètres carrés c'est les dimensions de la chambre dans laquelle on se retrouve au moment où on met le casque. Donc la spécificité de cette chambre, la première, c'est que tous les meubles qui la constituent, qui la meublent, sont issus de décors de films. Je suis allée détourer du mobilier que j'ai réintégré dans mon espace 3D. La deuxième spécificité, c'est que le décor se transforme dans notre dos. Là où on ne regarde pas, les meubles changent de place, se transforment, etc. Donc c'est une sorte de décor en sans cesse transformation. Et donc ce qui m'intéressait dans ce truc, c'était de construire un espace parfaitement clos. Et un peu, je voyais un en fait, mon point de départ, c'était le livre de Virginia Woolf, une chambre à soi. Hein. Et donc, j'aimais le concept qu'elle mettait en place où, pour pouvoir écrire, les femmes avaient besoin d'une chambre à elles. Et donc, elle parle d'une chambre close, à l'écart du bruit, à l'écart des tyrannies familiales, etc. Et donc, j'aimais que la créativité puisse être comme ça, contenue dans un espace très délimité. C'était une chambre. Et c'était un lieu clos, quoi. Et donc, de cette idée de chambre un peu cellulaire, je voyais un parallèle avec ce qu'était la réalité virtuelle. À partir du moment où on met un casque, on est complètement exclu du reste de l'exposition. Notre corps évolue dans une autre dimension que celui de nos yeux et de nos oreilles. Et donc, je voyais dans la réalité virtuelle cette chambre de chambre un peu mentale dans laquelle on peut s'enfermer pour penser, quoi. Donc, le film, c'est la chambre, c'est le système de réalité virtuelle.
Je m'appelle Jingai, je viens de la Chine, je suis né à Shanghai. Avant, j'ai fait l'art plastique. Après, je suis venu en France pour continuer mes études. Donc, je finis les beaux-arts à Nice, conservatoire de Nice. Après, je suis venu au Fénois pour faire le travail audiovisuel, performance hybride. Ce travail, ce projet-là, c'est basé sur le geste, le corps, le mouvement, c'est-à-dire... Est-ce que le corps, il peut faire la musique, il peut faire le dessin en même temps? Après, on a pensé trouver un thème, un sujet qui est poétique. Après, on a pensé choisir les instruments lui-même qui peut parler. Après, on a lié toutes les choses, tous les éléments ensemble, créer un geste qui peut être un signe, qui peut être un symbole, qui peut être quelque chose de différent, qui continue... créer une chose chorégraphique, c'est-à-dire une continuation, le mouvement du corps, le son qui est créé par les instruments, les images qui est créées par voilà, le logiciel. Après, ça termine par une performance.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents instruments qui sont, à première vue, des instruments traditionnels chinois?
Oui, en fait, celui-là, donc très long instrument, comme on boit, s'appelle guzhen. En fait, ça c'est un instrument traditionnel chinois, pentatonique. Normalement, ça se joue par deux mains en fait, qui grattent là-dessus, après qu'il y aura le son. Après, j'ai transformé un instrument qui peut être automatique, un système automatique là-dessus, qui peut jouer automatique. Ça c'est un tambour chinois, ça marche chinois, donc c'est pas la grande taille, c'est la petite taille en fait. Quand il est à cérémonie, quand les gens jouaient un truc comme ça, c'est-à-dire un dragon comme ça, après il y a certaines choses un peu similaires comme ça, voilà. Ça c'est pour fêter, cérémonie. C'est l'instrument sitar chinois, guzhen, c'est plutôt pour... on joue dans la salle en fait. Après les autres instruments, ça c'est l'instrument celtique, c'est-à-dire un instrument, c'est harpe celtique. Après, je l'ai accordé dans une manière un peu différente pour switcher le système sonore, tonalité. Le dernier, c'est la caisse claire. Et voilà, une cloche simple comme ça, on joue. Voilà.
Quelle relation vous faites entre ces instruments, pour certains traditionnels, l'art contemporain et votre travail d'une manière générale, la relation?
En fait, la relation, c'est-à-dire comment réunir toutes les choses ensemble. Donc, moi, j'aimerais bien la performance, c'est-à-dire lui, ça pourra, lui de pouvoir accueillir, en fait. Ça peut créer une nouvelle relation entre le corps lui-même, en fait. Après, moi, je penserais, l'art contemporain, il a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de sujets. Est-ce que moi, je voudrais chercher, c'est-à-dire, est-ce que le corps lui-même, il a reçu plein de choses, la culture, le trajet, le voyage, lui-même, est-ce que lui il peut parler, voilà. C'est-à-dire, on a pensé, on a créé le chorégraphe, on a créé le geste en temps réel. Lui-même, lui, il va adresser à tous les spectateurs. On fait un geste qui est naturel, tout ça. On s'adresse à un instrument, on donne à la projection. Les gens, le public, ils le voient en temps réel. Voilà, ça, c'est une relation. On applique à partir le corps.
Donc, dans cet espace, il y a plusieurs, on va dire, installations, et il y a aussi une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette vidéo?
En fait, sur cette vidéo-là, c'est-à-dire, il y a trois différentes séances. La première séance, c'est un épisode où on a sorti un poème de Tang Dynastie, l'auteur s'appelle Wang Wei. C'est-à-dire, on a essayé de trouver quelque chose qui est cohérent, c'est-à-dire la peinture dans le poème lui-même et le poème dans la peinture lui-même. C'est-à-dire, il y a une jonction, en fait, le texte. Parce qu'on a cassé le texte. Le texte, chaque caractère, il devient un élément visuel, comme ça. Il est en train de flotter avec les feuilles qui sont en train de tomber. Ça se mélange ensemble. En même temps, on peut lire le caractère lui-même, il a un sens visuel. Comme ça, on fait toutes les choses ensemble. Aussi, le deuxième mouvement, c'est-à-dire c'est la harpe et le joue-sol, en fait, crée une mélodie très, très, très tonalité, c'est-à-dire très tonique, une mélodie très harmonique. C'est très beau, tout ça. Donc, essayer de transporter notre esprit, voilà, comme ça. Aussi, essayer de transcrire, quand, c'est-à-dire on touche l'air. Voilà, touche l'air, il y a un genre de sens de toucher. Donc voilà, donc, on a trouvé un thème de Baudelaire, comme ça on trouve c'est très cohérent. Il a écrit un poème qui s'appelle Correspondance. Il y a beaucoup de sens, il veut transporter aux les autres voilà, personnes. Moi je trouve ça c'est cohérent. Après, il y a tout ça, donc plusieurs petits éléments. Donc on a reçu comme ça, on a fait ce travail. Voilà.
Je suis assez impressionné parce que il est assez rare que des artistes chinois mettent en valeur, on va dire peut-être, les formes traditionnelles d'art chinois et les impliquent, les intègrent à des projets artistiques contemporains. C'est assez nouveau. Je pense que ça va être incontournable parce qu'il y a une richesse infinie en Chine culturellement et tout ça, ça n'a pas encore été vraiment exploité.
Ouais, en fait, la rencontre l'art traditionnel entre le nouvel aspect de l'art contemporain, moi je trouve ça donne une ouverture, une grande ouverture. Parce que vu qu'avant on a reçu une éducation comme ça, très standard en Chine, peut-être on n'a pas vraiment remarqué les choses traditionnelles. Vu que moi pendant le moment quand je fais recherche, aussi création sur le projet. Moi, je trouve il y a certaines choses comme la calligraphie, comme la peinture chinoise, l'architecture chinoise. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très intéressants pour créer une piste de rencontre. Rencontre avec la nouvelle technologie, rencontre avec les sujets, la pensée occidentale. Aussi, il y a beaucoup de mathématiciens qui font rencontre avec anciennes théories, par exemple Yin Yang, tout ça, le système de trigramme, tout ça, il pense beaucoup de choses orientales. Moi, je trouve c'est aussi une rencontre entre oriental et occidental. Voilà.
En Chine, il y a plusieurs villes où l'art contemporain est présent. Je pense à Pékin, Shanghai, d'où vous venez, Canton aussi
oui,
un peu.
Shenzhen,
il y a d'autres villes, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, je suis allé à Xi'an cet été. Il y a un lieu d'art, mais on ne peut pas dire qu'il soit en expansion. Pourquoi ce décalage entre des villes ?
En fait, ce décalage entre deux villes, ça, j'ai beaucoup vécu à Shanghai. J'ai visité plusieurs fois à Pékin, aussi les autres villes à côté de Shanghai ou un petit peu du sud. J'ai vu l'expo, mais sur la zone centre. Donc c'est un peu différent, la manière les gens ils pensent, la manière à vivre, c'est très différent. Sur ce décalage, peut-être c'est aussi un décalage de différents la pensée pour vivre, différents stratégies pour économique peut-être. Vu qu'après, donc, stratégie qui est changée après 1980, donc sur les villes, et plus à côté de la mer, c'est-à-dire, ça devient une zone, avoir une stratégie plus sur le développement, en fait, économique. Ça, c'est aussi un point très important.
Donc, le travail que vous avez réalisé ici, vous allez forcément le développer. Est-ce que vous pensez aller en Chine, le montrer, voire même... créer des œuvres sur place et irriguer un peu la vie culturelle chinoise.
En fait, le prochain projet aussi, donc, j'ai demandé, j'ai essayé donc, aller dans un temple parce que vu que moi, je vraiment m'intéresse sur le corps lui-même, le geste lui-même, je dois apprendre donc, la base, comment les gens ils font le tai chi, fait, voilà, donc, c'est-à-dire un genre de Kung Fu en fait, il y a beaucoup de gens dans Kung Fu. Voilà, je voudrais savoir, apprendre à la base traditionnelle dans le lieu original en Chine, comme ça. Et en France, je vais encore continuer à faire les recherches, comment créer la nouvelle audiovisuelle, la nouvelle performance sur le lieu comme ça, pour créer encore une jonction, voilà, réunir plus de choses, avancer plus loin. Oui.
Merci. À noter que cette année, des œuvres sont également présentées par le Frénois au Muba de Tourcoing, des vidéos ayant pour thème le Moyen-Orient. Cette exposition Panorama 18 est visible jusqu'au 31 décembre. Profitez-en et préparez ou complétez votre visite en visitant le site internet www.lefrénois.net sur lequel vous trouverez une présentation exhaustive de l'ensemble des artistes. Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.